Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour ce nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Nous connaissons tous les conséquences du 28 juin 1914, jour de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, François Ferdinand, héritier de la double couronne d'Autriche-Hongrie. Nous savons ce que cet événement a provoqué dans l'histoire et dans le déclenchement de ce que l'on appellera à l'époque la Grande Guerre, qui deviendra bien plus tard la Première Guerre mondiale. L'événement fait partie de ce qui est appelé communément les origines proches du conflit. Dans sa magistrale Histoire des relations internationales, Pierre Renouvin écrivait en 1972 « Le conflit n'est survenu qu'à l'heure où se sont heurtés violemment les desseins politiques, souci de sauvegarder la sécurité ou désir de puissance. Sans doute, dans ces desseins même, les intérêts économiques pouvaient-ils avoir une place ? Car les gouvernements et les peuples n'ignoraient pas les avantages matériels que leur vaudrait un succès. Mais ce n'est pas ce calcul qui a guidé leur résignation ou leur choix. L'impulsion efficace a été celui du sentiment national et des mouvements de passion. Eh bien, pour illustrer ces sentiments nationaux et ces passions, je souhaiterais aujourd'hui m'arrêter sur un destin, celui de la Serbie, un pays au cœur du conflit, puisqu'il fut directement lié aux origines proches de la guerre et indirectement ou directement, nous allons le voir, à l'assassinat précisément de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Frédéric Lemoyle, bonjour.
Bonjour Christophe Dickès.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en histoire contemporaine. Vous enseignez au lycée militaire de Saint-Cyr et au CESAT, qui est le collège de l'enseignement supérieur de l'armée de terre, ainsi qu'à la Cato. Vous avez travaillé sous la direction de Georges-Henri Soutou sur les rapports entre la France et l'Italie dans les Balkans. Vous en avez tiré un ouvrage, La France et l'Italie dans les Balkans, 1914-1919, qui a été un livre couronné par le prix du Mémorial du Front d'Orient. Et vous avez publié aussi dernièrement La Serbie du martyr à la victoire, 1914-1918, dans la collection 14-18 édition. Alors, ma première question est... Je m'engouffre dans le sujet. C'est paradoxal. La Serbie a un rôle majeur dans le déclenchement de la Première Guerre. Nous allons le voir. Pourtant, en France, il y a très, très peu d'études sur ce pays.
Alors, c'est tout à fait exact. Ça peut paraître paradoxal parce que, bon, en effet, on va y revenir. La Serbie joue un rôle fondamental dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et puis après, une fois passé le déclenchement de la guerre austro-serbe du 28 juillet, on a la mobilisation russe, l'engrenage des alliances qui se met en place et eh bien, l'attention des historiens et du public eh bien, s'éloigne de la Serbie. Et la Serbie eh bien, en fait, disparaît des livres d'histoire. Dans l'historiographie française, bien sûr, on s'intéresse immédiatement à l'entrée en guerre de la France et puis à la bataille des frontières, la bataille de la Marne. Et ensuite, tout ce qui se passe sur le front serbe est évacué. Alors qu'il se passe des événements extrêmement importants, puisque la Serbie résiste à l'offensive autrichienne. Et ainsi, le plan des Autrichiens, qui était d'écraser rapidement la Serbie pour se retourner ensuite contre la Russie, eh bien, ce plan ne peut pas être mis en place et échoue, ce qui a des conséquences sur la durée du conflit.
Alors, il y a un autre intérêt, évidemment, c'est le lien entre le passé et le présent. On sait l'importance de la Serbie dans le conflit dans les années 90. Et au fond, on se dit que tout ce qui s'est passé après la chute du mur est une conséquence de ce qui s'est passé au début du siècle. Et donc, notre émission opère ce lien entre le passé et le présent.
Alors, c'est vrai que la Serbie revient sur le devant de l'histoire à partir du début des années 90, avec l'éclatement de la Yougoslavie. Première différence avec ce qui s'est passé au début du XXe siècle et pendant la Première Guerre mondiale, c'est que la Serbie avait une image très positive dans l'opinion cultivée, mais même dans l'opinion publique en général au début du XXe siècle et pendant la Première Guerre mondiale. Alors que dans les années 90, la Serbie a une image extrêmement négative qui est liée à tous les événements qui se sont passés, notamment en Croatie et en Bosnie. Alors ensuite, il est évident que ce qui s'est passé dans les années 90 trouve une de ses origines dans les événements de la Première Guerre mondiale, puisque la Première Guerre mondiale permet à la Serbie de réaliser l'un de ses projets qui est de créer un État qui rassemblerait tous les Slaves du Sud. Mais dans l'optique serbe, cet État, c'est un État contrôlé par les Serbes. Il n'est pas question dans leur esprit que les Croates, les Slovènes et les autres peuples soient mis à égalité. Donc il y a eu une sorte de domination des Serbes sur la Yougoslavie dès sa naissance. Domination qui n'a jamais véritablement disparu jusqu'à l'époque titiste. Ces peuples qui se sont unis en 1918, en réalité, cette union n'a jamais pénétré en profondeur les consciences de ces peuples. Et à chaque fois que l'ordre international dans lequel évoluait la Yougoslavie s'est écroulé, 1940-1941, l'ordre issu des traités de paix de la Première Guerre mondiale et l'ordre de la guerre froide, eh bien la Yougoslavie n'a pas résisté et a éclaté parce que ces peuples n'ont jamais trouvé un point commun pour pouvoir vivre ensemble. Le yougoslavisme, proprement dit, a été un sentiment quand même extrêmement faible.
Revenons-en à l'histoire et à la chronologie. Et la période d'avant-guerre est très très importante. Vous lui accordez un chapitre. Qu'est-ce que la Serbie avant-guerre ? Est-ce que c'est un jeune État ?
Oui, c'est un jeune État dans le sens où il est réapparu au cours du XIXe siècle dans le contexte de la lutte des peuples slaves et orthodoxes contre l'Empire ottoman, contre la domination ottomane. Mais il a une histoire ancienne, extrêmement ancienne, puisqu'il a existé au Moyen-Âge un royaume de Serbie qui a pris quelques aspects mythiques, mais qui a été une réalité. La domination turque étant une parenthèse, certes longue, mais une parenthèse pendant laquelle la Serbie a disparu. Et dans le contexte donc d'affaiblissement de la Turquie, de l'Empire ottoman, de l'homme malade de l'Europe, eh bien, la Serbie a ressurgi et pendant tout le XIXe siècle eh bien, a réussi à arracher une autonomie, puis une indépendance et à arracher des provinces qui étaient sous domination turque pour fonder un État indépendant. Mais, et c'est un des points fondamentaux de toute cette histoire, c'est que tous les Serbes ne se sont pas retrouvés dans l'État serbe.
Il n'y a pas de lien entre l'État et la nation. Le lien n'est pas encore parfait comme il le sera plus tard avec la création de la Yougoslavie.
C'est le type d'un État-nation inachevé, au sens où eh bien, il y a des Serbes qui vivent sous des dominations étrangères, austro-hongroises d'un côté, encore ottomanes de l'autre. Hein. N'oublions pas que l'Empire ottoman est en Europe jusqu'en 1913. Une bonne partie sur les Balkans, des Serbes en Macédoine, dans le nord de l'Albanie. Donc c'est une État-nation inachevée. Et dans le processus de construction des nations qui caractérise le XIXe siècle, eh bien pour de très nombreux courants politiques serbes, c'est une situation insupportable. Et le dessein, c'est de réaliser la Grande Serbie, c'est-à-dire la réunion de tous les Serbes dans un même État. Projet auquel se rajoute le projet, là, celui-ci proprement yougoslave, qui là est le rassemblement de l'ensemble des Slaves du Sud des Balkans.
Quel régime politique ?
Alors, c'est une monarchie parlementaire, surtout à partir de 1903. C'est l'un des régimes, en fait, les plus démocratiques de la région. Donc, une monarchie, la dynastie des Obrenović jusqu'en 1903, jusqu'au coup d'État de 1903, les Karađorđević à partir de 1903.
Il y a un coup d'État, c'est cela ?
Alors voilà, il y a un coup d'État qui est mené contre la dynastie des Obrenović, qui était accusée d'être trop pro-autrichienne. Jusqu'en 1903, la Serbie est dans l'orbite autrichienne, c'est un satellite de l'Autriche. Et des officiers mènent un coup d'État qui renverse la dynastie des Obrenović. Alors, un coup d'État extrêmement violent, hein, puisque le roi et la reine sont assassinés de manière violente et leurs corps sont défenestrés. Enfin bon. Et ils sont remplacés par la dynastie des Karađorđević, le roi Pierre Karađorđević, et qui instaure là un régime vraiment parlementaire, puisque le gouvernement, le président du conseil, eh bien, dépend de la majorité de l'Assemblée, qu'on appelle la Skupština. Et c'est l'un des régimes, en effet, les plus démocratiques de la zone, et c'est le cas jusqu'en 1914.
Alors, les choses vont très très vite bouger, parce que vous l'avez dit, ce coup d'État est au fond lié à une orientation diplomatique, à une orientation même géopolitique, et la dynastie donc des Karađorđević va se tourner vers la Russie, et on sait que très tôt, il y a une opposition d'influence entre la Russie et l'Autriche-Hongrie sur cette zone.
Voilà, la Serbie se trouve en fait sur la ligne de faille, la ligne sismique de la compétition entre les deux grands empires dans les Balkans, c'est-à-dire l'Autriche-Hongrie et la Russie. Alors jusqu'en 1903, donc, comme je le disais, c'est une orientation pro-autrichienne, après 1903, c'est une orientation pro-russe. Alors du coup, le conflit austro-serbe prend un caractère beaucoup plus vif, puisque, comme je le disais tout à l'heure, de très nombreux Serbes vivent en Autriche-Hongrie, et cette proportion de Serbes est encore augmentée après 1908, au moment de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie, qui crée une crise très violente entre Belgrade et Vienne, puisque, évidemment, cette décision contrecarre complètement le projet de Grande Serbie. Alors, Derrière la Serbie, il y a la Russie qui, en effet, cherche des points d'appui dans les Balkans. C'est sa descente vers les mers chaudes. Jusqu'au début du XXe siècle, c'est plutôt la Bulgarie qui était l'homme, si j'ose dire, des Russes. Dès 1903, eh bien, c'est très net la Serbie. Et du coup, eh bien, la Serbie se trouve dans l'attraction de la Russie et par là même de l'entente, de la triple entente qui se crée au début du XXe siècle. Les liens avec la France sont encore limités avant la Première Guerre mondiale, mais il y a déjà quand même certaines bases, puisque le roi Pierre, très francophile, c'est un ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il a participé à la guerre de 1870 dans l'armée de la Loire. Donc incontestablement, il y a des sentiments francophiles qui commencent à s'exprimer.
Alors, il va y avoir un ensemble de crises précédant le déclenchement de la guerre. Et la première des grandes crises, c'est l'année 1908, avec l'annexion de la Bosnie, par l'annexion unilatérale, bien évidemment, par l'Autriche-Hongrie.
Voilà, c'est la première des grandes crises. L'Autriche-Hongrie avait reçu la Bosnie-Herzégovine, une sorte de protectorat après le congrès de Berlin. Et en 1908, le gouvernement austro-hongrois décide l'annexion. Alors ça provoque une très grave crise, ça enflamme les esprits en Serbie. Là, on est vraiment dans une expression des passions nationales telles qu'on pouvait les avoir dans la décennie qui précède la Première Guerre mondiale. Alors bien sûr, les Serbes se tournent vers le protecteur russe. Or, la Russie vient de subir les terribles défaites contre les Japonais pendant la guerre de 1904 et 1905, Mukden, Tsushima. Donc elle n'est pas en état d'apporter un appui militaire à la Serbie, d'autant plus que l'Allemagne exige, sous forme d'un ultimatum à la Russie, que la Russie abandonne toute idée de soutien aux Serbes et que les Serbes reconnaissent l'annexion, ce qu'ils sont bien obligés de faire.
C'est une humiliation.
Alors, il y a une humiliation, en effet. Et du coup, on comprend 1914 avec la crise de 1908, parce que, aussi bien du côté russe que du côté serbe, il n'est plus question de céder à la prochaine crise avec l'Autriche. Il y a un vrai sentiment d'humiliation. Et d'ailleurs, c'est après la crise de 1908 que se créent des sociétés secrètes extrêmement nationaliste, dont la plus fameuse, évidemment, l'Union ou la mort, qui est plus connue, en effet, sous celle de la main noire. Donc, c'est vraiment cette crise de 1908 de Bosnie-Herzégovine est un point central dans la dynamique qui conduit à la Première Guerre mondiale.
Alors, la deuxième grande crise après 1908 sont les guerres balkaniques. C'est ce que je vous propose de voir, Frédéric Lemoal. Après cette toute première pause, restez à l'écoute de Canal Academy. Nous nous retrouvons dans un instant.
La loi Hadopi sur la protection de la création sur Internet ne vous est pas étrangère, elle a provoqué le buzz chez les internautes en 2009. Michel Thiolière, sénateur de la Loire, vice-président de la commission des affaires culturelles du Sénat, a entendu 120 personnes au cours d'une soixantaine d'auditions. Il dresse un état des lieux complet du piratage sur Internet en France et à l'étranger. Diffusion et protection de la création sur Internet, une émission éclairage, les rapports du Sénat à télécharger librement sur le site de Canal Academy.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à la Serbie. Je reçois Frédéric Lemoal. Frédéric Lemoal, vous êtes l'auteur du livre « La Serbie du martyr à la victoire », donc un livre consacré au rôle de la Serbie avant, pendant et un peu après la Grande Guerre de 14. Un livre paru aux éditions 14-18. Nous avons évoqué la crise de 1908, qui est une crise majeure puisque la Bosnie est annexée par l'Autriche-Hongrie et la Serbie, tout comme la Russie, son protecteur, sont en quelque sorte humiliés sur le plan international. Il y a une crise suivante qui est la crise des guerres balkaniques, qui est cette fois une crise interne, j'allais dire, aux Balkans.
Oui, tout à fait. Alors très important aussi, puisqu'il faut bien comprendre que la Serbie, en fait, elle rentre en guerre, elle, en 1912, elle n'en sortira qu'en 1918. À part une petite année entre 1913 et puis 1914. Et dans l'histoire serbe, dans l'esprit des protagonistes, les événements sont liés. C'est-à-dire que la crise de juillet 14, elle est liée aux guerres balkaniques. Alors, en effet, ces guerres balkaniques, assez complexes, peuvent être résumées ainsi. Il s'agit de s'emparer des territoires de l'Empire ottoman qui sont au centre des Balkans, pour aller vite de l'Albanie jusqu'à la Thrace, avec la Macédoine au centre. La Grèce, la Serbie, la Bulgarie s'allient sous le haut patronage de la Russie afin de bouter, si j'ose dire, les Turcs hors d'Europe, ce qu'ils parviennent à faire. L'armée serbe remporte de très belles victoires et réalise deux de ses objectifs, l'entrée en Macédoine et à l'arrivée sur le littoral albanais, c'est-à-dire le débouché sur la mer qui lui manque, que la possession du littoral dalmate par l'Autriche-Hongrie lui interdit. Deuxième guerre balkanique, alors cette fois-ci c'est entre les vainqueurs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le partage de la Macédoine, on se demande d'ailleurs comment quelqu'un peut trouver une solution au problème macédonien, et donc c'est l'union contre la Bulgarie qui se fait avec la Grèce, le Monténégro, j'ai oublié dans la première guerre balkanique aussi, la Grèce, la Serbie, le Monténégro, également la Roumanie qui rentre dans la danse, et puis à la fin aussi l'Empire ottoman qui essaye de rétablir la situation. De cette deuxième guerre balkanique, la Serbie sort également victorieuse et obtient la Macédoine, qui est annexée. Donc la Serbie double son territoire, double sa population suite à ces guerres balkaniques. Elle perd, elle est obligée d'abandonner le littoral albanais sous pression de l'Autriche-Hongrie et l'Italie qui ne veulent pas voir les Serbes sur le littoral de l'Adriatique. C'est un point important puisque la guerre qui éclatera en juillet 14, pour eux, est un moyen d'obtenir ce débouché qu'ils n'ont pas pu obtenir. Alors ensuite, le lien avec 14, c'est lequel ? Ben c'est le suivant, c'est que devant les victoires, l'ampleur des victoires serbes, les Austro-Hongrois se sont inquiétés, notamment le chef d'état-major Konrad von Otzendorf. Et ils auraient bien attaqué la Serbie en 1913, au moment du règlement avec délicat avec la Bulgarie. Or là, les Allemands ont refusé qu'ils interviennent et ils le regretteront après, les Allemands, puisqu'ils comprendront que le renforcement de la puissance serbe dans les Balkans menace la cohésion de l'Autriche-Hongrie, empire multinational, leur seul allié dont ils sont sûrs, bon, il y a l'Italie, mais enfin, on n'est pas très sûr. Donc, une inquiétude qui s'exprime à Berlin, qui fait que pendant la crise de 14, alors cette fois-ci, Berlin soutiendra l'Autriche-Hongrie dans sa volonté de régler par les armes le problème serbe. C'est ce qu'on appelle le fameux chèque en blanc qui est donné aux Autrichiens.
Alors, en face, il y a la Russie. Je voudrais m'arrêter quand même. Je reste sur l'année 1913 avant d'arriver à 14. Vous montrez bien que la Serbie, au fond, devient une sorte de point de mire de nombreuses puissances et a un poids sur l'échiquier international. Ceci dit, elle n'est en aucune façon un membre du concert européen. Et vous ajoutez, elle devient un instrument autant qu'un point de fixation et évidemment un instrument entre les mains de la Russie. Est-ce à dire que, sans vouloir être extrémiste dans mon propos, est-ce à dire que la Russie a voulu instrumentaliser la Serbie ?
Alors, instrumentaliser peut-être un peu fort. La Serbie, c'est le pays qui permet à la Russie d'être présente dans les Balkans et de contenir, d'un point de vue strictement géopolitique, de contenir la descente des Austro-Hongrois, notamment le long du fleuve Vardar, qui descend jusqu'à Salonique et la mer Méditerranée. Ça, c'est incontestable. Alors, jusqu'où va ce soutien ? Voilà, c'est ça qui est délicat. En février 14, le président du Conseil serbe, qui est un homme extrêmement intéressant à étudier, qui est Nikola Pašić, se rend à Moscou. Et là, bon, le gouvernement russe lui fait un certain nombre de promesses, de soutien. Mais tout ça reste vague. Il n'y a rien d'écrit. On n'est pas dans un traité en bonne et due forme. Donc, les grandes puissances regardent la Serbie, mais en fonction de leur intérêt. Et c'est le cas de la Russie. On parle souvent de la Russie comme de l'allié traditionnel de la Serbie. C'est vrai, mais enfin, oui, entre 1903 et 1917, c'est vrai. Pendant l'entre-deux-guerres, c'est plus le cas. Et à l'époque titiste, ça ne dure pas longtemps. Ça dure de 45 à 47. Donc les relations sont quand même extrêmement complexes. Et bon, là, je déborde un petit peu, hein, m'en excuserai, mais pendant la guerre, le soutien des Russes au programme yougoslave des Serbes...
Alors, on arrive à ce fameux mois de juin 1914... Le voyage donc de François Ferdinand, et c'est un voyage annoncé, il est annoncé, vous le dites, dès mars 1914, et le choix de la date est, j'allais dire, est considéré comme une provocation.
En effet, puisque le 28 juin, c'est une fête serbe très importante, la fête du Vidovan, qui commémore la défaite que les Serbes ont connue au XIVe siècle contre les Turcs. Donc, dans l'imaginaire national serbe, c'est une date très importante. Alors que l'archiduc, héritier du trône austro-hongrois, qui a des projets de réforme de la monarchie sous une forme trialiste, d'intégration d'une plus grande place faite aux Slaves au sein de la monarchie des Habsbourg.
Cette idée est très importante, on ne le répète pas assez, même si je pense l'avoir abordé avec Jean-Louis Thiriot au cours de l'émission sur François Ferdinand, mais l'idée trialiste, c'est au fond, on a cet empire qui est austro-hongrois, avec une composante slave qui est sous-représentée, et François Ferdinand tient à permettent l'émergence de cette composante slave.
Tout à fait. Prenons l'exemple de Slaves du Sud comme les Croates. Les Croates qui ont été un peuple extrêmement fidèle à la monarchie. Pendant la crise de 1848, les troupes croates ont été fidèles à la monarchie, alors que les Hongrois à l'époque voulaient s'en détacher. On le verra pendant la Première Guerre mondiale, les troupes croates ont été extrêmement fidèles et ont combattu pour l'empereur contre les Italiens. Donc c'est un point très important et en effet l'archiduc avait ses projets. Alors évidemment, ce projet de trialisme, il remet complètement en cause le projet grand serbe, voire même le projet yougoslave, puisqu'on aurait une intégration des Slaves dans la monarchie, monarchie dans laquelle ils se trouvent pour la plupart très bien, et ça serait la fin des rêves de panserbisme ou de yougoslavisme absolument assuré.
Il y a tout de même un paradoxe, puisque au fond, encore une fois, ça fait penser un peu à l'attentat d'Orsini, où Orsini donc commet cet attentat contre Napoléon III pour sensibiliser Napoléon III à l'unité, à la question italienne. Et là, au fond, on a ce François Ferdinand, le pauvre, qui, lui, est en faveur des Slaves contre ces Hongrois qui ne veulent pas trop les reconnaître. Et finalement, il va tomber sous le coup du panslavisme.
C'est vrai, ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, les Slaves qui soutiennent vraiment le projet trialiste chez les Yougoslaves, ce sont les Croates, ce ne sont pas les Serbes. Et ensuite, si le trialisme se réalise, il est indéniable que la cohésion de l'Empire des Habsbourg s'en trouvera renforcée. Donc, ce n'est pas un projet conforme aux intérêts de la Serbie et aux intérêts des nationalistes serbes. Donc, que cet homme qui défend ce projet se rende ce jour-là à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, qui à l'époque est très important et majoritairement peuplée de Serbes. Ça ne sera plus le cas, on en parlait tout à l'heure, dans les années 80-90. C'était minoritaire. Tandis qu'à l'époque, ils étaient majoritaires. Donc, tout est là pour considérer que c'est vraiment une provocation. Et donc, ça enflamme l'esprit de jeunes nationalistes qui appartiennent à un groupe dont l'idéologie est d'ailleurs assez confuse, qui est la Jeune Bosnie, où on trouve aussi bien des Serbes nationalistes, mais également des Croates, également des musulmans, qui défendaient plutôt un programme plutôt yougoslave, mais en tout cas anti-autrichien, ça c'était sûr.
Et au fond, cette composante un peu confuse fait que les autorités serbes qui sont au courant de ce projet d'assassinat, ne prennent pas la chose au sérieux.
Alors, ça, c'est vraiment la question fondamentale, c'est-à-dire le rôle du gouvernement serbe. Alors, comme toujours dans les assassinats politiques, il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas, que l'on ne saura jamais, parce que généralement, quand on ordonne un assassinat, on ne laisse pas de traces écrites. S'il y en a eu, elles ont pu être détruites pendant les vicissitudes de la guerre, lorsque les Autrichiens ont envahi la Serbie, ce n'était pas le moment de laisser traîner des papiers compromettants. La thèse que je défends, c'est que le gouvernement serbe, c'est-à-dire le président du Conseil, Pašić, sait qu'il va y avoir un attentat, mais il n'a pas beaucoup de prise sur les comploteurs, qui sont des sujets, je le rappelle, austro-hongrois. Gavrilo Princip, c'est un sujet de Habsbourg, pas serbe. Voilà, ça, c'est un tout à fait. Donc, j'aurais plutôt tendance à exonérer quelque peu le gouvernement serbe, qui savait, qui a essayé d'en savoir plus. Alors après, il y a la Manoire. La Manoire qui est dirigée par le fameux colonel Dimitrievitch, plus connu sous son surnom Apis, qui est le chef des services de renseignement de l'armée, qui est à la tête de la Manoire. Alors là aussi, est-ce que la Manoire a ordonné l'assassinat? C'est pas sûr, parce que les jeunes nationalistes du groupe Jeune Bosnie appartiennent à une nébuleuse assez indépendante. Il y a eu un rôle incontestable de la Manoire. Les armes qui seront utilisées pour tuer l'archiduc, avec beaucoup de vraisemblance, ont été données par la Manoire. Le transit des comploteurs de Serbie, où ils ont eu les armes, jusqu'à la Bosnie-Herzégovine, a été facilité sans aucun doute par la Manoire. Sans aucun doute, Apis pensait qu'il ne réussirait pas à tuer l'archiduc. Ce qu'il espérait, c'était un attentat raté qui déclencherait une crise internationale. Quel pouvait être l'intérêt d'une crise internationale? C'est parce que la Serbie connaît au mois de juin une crise politique interne très violente entre le gouvernement civil de Pašić et les militaires, à la tête desquels on trouve Apis. Une dissolution a été prononcée pour résoudre le conflit, des élections ont été prévues pour le mois d'août, les militaires accusant le pouvoir civil d'être ne pas représenter avec suffisamment de force les intérêts de la Serbie, la nation serbe, n'est pas conforme aux intérêts de nationalistes serbes. Donc une crise internationale aurait dans son esprit encore plus fragilisé le gouvernement et lui aurait permis de déstabiliser encore plus Pašić. Voilà la situation. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que Gavrilo Princip réussit son coup. Et par un extraordinaire concours de circonstances, parce que le hasard joue parfois dans l'histoire, j'y crois pas trop, mais parfois ça joue, et il réussit à tuer l'archiduc.
Mais alors, précisément, vous nous donnez ce contexte, notamment ce contexte de politique intérieure et on comprend que ce n'est pas de l'intérêt de la Serbie d'aller vers un conflit, surtout un conflit contre l'Autriche-Hongrie. Et c'est pour cette raison que vous dites que ce n'est pas le 28 juin que se joue le destin de l'Europe, mais bien le 23 juillet, jour de la remise de l'ultimatum austro-hongrois à la Serbie.
Exactement. Juste pour revenir sur un point, je pense que le gouvernement serbe n'avait pas intérêt à une crise, parce qu'on était en crise politique interne. Ce n'est pas le moment pour déclencher une guerre. Et que l'armée, il ne faut pas oublier, l'armée serbe est au sud, est en Macédoine, suite aux guerres balkaniques. Elle n'est pas au nord.
Je pense qu'elle a aussi été éprouvée par les deux années de conflit 1912-1913 des guerres balkaniques.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ils sortent de conflit, pas intérêt à déclencher une guerre contre l'Autriche-Hongrie. Alors, en effet, ce qui joue, en fait, eh bien, c'est l'ultimatum. Parce que Pašić, bon, ne voulait pas de guerre, mais il se doute bien qu'il y aura réaction autrichienne. Il est prêt à prendre le risque. Mais il pense que les puissances auront suffisamment de temps pour agir sur les Autrichiens pour les calmer. Or, lorsque l'ultimatum est remis le 23 juillet, tout change. Pourquoi ? Sur deux points. Le premier point, c'est l'exigence, c'est les articles 5 et 6 de l'ultimatum, l'exigence qu'ont les Autrichiens de mener une enquête en Serbie même. Ça, c'est absolument inacceptable pour un État souverain. Ça serait une remise en cause complète de sa souveraineté. Pour Pašić, ça serait la remise en cause de toute son œuvre depuis qu'il est président du Conseil. C'est inacceptable. On reviendrait à la situation de 1903 et tout ce qui a été fait depuis 1903 serait ruiné. La Serbie redeviendrait un satellite. Et deuxième élément qui joue, c'est le temps de l'ultimatum. Deux jours. Alors aujourd'hui, mais à l'époque, deux jours, c'est très court avec les moyens de communication que l'on a à l'époque pour avoir le soutien des uns et des autres. L'engrenage, en fait, est extrêmement rapide. Donc, le 25 juillet, Pašić ne peut que dire non à l'ultimatum austro-hongrois. Toute son œuvre, ses idées politiques, la situation de l'époque commandaient un refus de l'ultimatum. Et du coup, eh bien, il se retrouve dans une situation où les événements s'enchaînent tellement rapidement qu'il n'y a pas de prise. Sur les Autrichiens, n'oubliez pas Poincaré, qui est en voyage en Russie à ce moment-là. Tout ça est quand même extrêmement confus. Les moyens de communication ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc la Serbie se retrouve en fait seule face à un ultimatum qu'elle ne peut que refuser.
Je reçois Frédéric Lemoyle, auteur de « La Serbie, du martyr à la victoire », un livre paru chez 1418 éditions. Nous nous retrouvons après cette deuxième pause.
Canal Academy vous propose L'auteur caché, une rubrique ludique pour tester vos connaissances en littérature française. 10 indices, 10 lignes d'extrait en moins de 10 minutes pour découvrir de quel auteur il s'agit. Vous êtes prêts ? À vous de jouer avec L'auteur caché, une rubrique de l'émission À voix lue à télécharger dès maintenant sur Canal Academy.
Nous nous retrouvons pour cette émission consacrée à la Serbie du martyr à la victoire 1914-1918. C'est le titre de votre ouvrage, Frédéric Lemoyle. Vous êtes historien et cet ouvrage est paru aux éditions 1418. Alors, ça y est, la guerre est bien là. Je vous lis, si les dirigeants serbes n'ont pas voulu la guerre, ils en ont quand même pris le risque, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, je laisserai nos auditeurs à votre ouvrage sur les différentes victoires, les différents revers. Je voudrais tout de même m'arrêter sur un point particulier qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire que, vous le disiez tout à l'heure, la Serbie, au fond, une fois que le conflit s'est étendu, eh bien, nous avons eu une sorte de regard franco-français ou bien franco-allemand, et uniquement franco-allemand. Or, la guerre est également présente dans cette partie du monde et il ne s'agit pas d'une guerre de tranchées. Et j'ai toujours été fasciné par la lecture des livres de Mosse sur la brutalisation des sociétés européennes. Et là, vraiment, eh bien, vous décrivez tout simplement l'épouvantable pendant cette guerre. Vous citez de nombreux textes, puisqu'il y a des journalistes, il y a des personnes qui décrivent ce qui se passe dans cette partie du monde.
Alors, notre avantage, en effet, c'est qu'il y avait beaucoup de journalistes sur le front serbe. Des journalistes français, anglais. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier le prisme de la propagande, hein, bien évidemment. Mais enfin, leur témoignage est quand même extrêmement intéressant sur la violence, effectivement, qui touche cette zone. La violence s'exprime très rapidement. Dès 1914, avec la première invasion, des Autrichiens pendant l'été 14, avant que les Serbes ne puissent les repousser. Plusieurs territoires de la Serbie sont occupés. Et là, vraiment, l'armée autrichienne se comporte avec une extrême brutalité. C'est pas Sissi, hein, c'est pas l'Empire de Sissi, là. Une très, très grande violence, y compris sur ordre. C'est-à-dire que les soldats se jettent sur les civils, hommes, femmes, enfants, vieillards, et les massacres. Il y a en effet des témoignages nombreux d'exactions sur les corps absolument abominables. Il y a vraiment une volonté très forte de martyriser la population serbe. Alors, qui s'explique par une préparation des esprits? C'est-à-dire que les journaux austro-hongrois, depuis plusieurs années, et surtout dans les derniers mois, eh bien, chauffaient, si j'ose dire, la haine anti-serbe. C'est indéniable. Un aspect racial qu'il ne faut pas sous-estimer, qui commence à apparaître à cette époque, le fameux combat entre les Germains et les Slaves, le danger slave qui menace le monde germanique. Et ce qu'on avait aussi sur le front français, c'est l'apport des francs-tireurs, qui fait que pour les soldats austro-hongrois, eh bien, chaque civil serbe est potentiellement un assassin. Quelqu'un qui va utiliser, avec un habit civil, qui va utiliser un fusil pour leur tirer dessus. Alors tout ça explique cette montée de la violence. En effet, il y a des témoignages qui sont très, très, très poignants de corps coupés en morceaux, de civils incendiés dans les églises, etc. Bon, tout ça est très violent, y compris aussi sur les Serbes de Bosnie, hein, qui sont aussi victimes des actions. Alors cette violence, bon, elle continuera à partir de 1915, lorsque les Austro-Hongrois occuperont pratiquement la totalité de la Serbie. Également du côté bulgare. Alors là, il n'y a pas d'aspect racial, hein, c'est tous des Slaves, mais entre familles, on adore s'entre-égorger. Donc là aussi, les Bulgares seront extrêmement violents à l'égard des Serbes. Alors, brutalisation, bon, c'est un débat en effet, hein, historiographique. En tout cas, on est bien là dans le phénomène de la totalisation de la guerre, qui fait que eh bien, les civils se retrouvent entraînés dans le conflit et sont des cibles désormais des armées qui combattent.
Il y a un épisode qui est un épisode, c'est pour cette raison que j'ai pensé au fond à la guerre de tranchées, parce que pendant qu'il y avait ces tranchées en France, il y a du mouvement dans ces pays, et il y a ce grand mouvement qui est la retraite d'Albanie, une sorte, j'allais dire, d'épopée quasiment,
oui,
dans la débâcle, qui va marquer très longtemps, et on pense encore aujourd'hui. L'imaginaire serbe.
Ah oui, encore aujourd'hui. On discute avec des Serbes aujourd'hui, ils vous expliqueront qu'ils avaient un grand-père, un arrière-grand-père, qui a fait la retraite d'Albanie. Hein. Ça, c'est indéniable. Alors, en effet, eh bien, les fronts bougent, et en 1915, la Serbie eh bien, cède sous la pression austro-hongroise et allemande, au nord et à l'ouest, et surtout l'attaque de la Bulgarie. Donc elle est prise en tenaille, on ne rentre pas dans les détails, hein, mais tout le pays est envahi. Alors là, il y a une décision fondamentale qui est prise par le gouvernement et l'armée, c'est le refus de la capitulation. On ne signera pas de capitulation ni de paix séparée. Donc il n'y a plus d'autre choix que de fuir. Tout le territoire serbe est envahi, donc les débris du gouvernement, les débris de l'armée, mais aussi des millions de civils fuient l'occupation. Parce qu'être occupé, c'est infamant. On a vu les Autrichiens à l'œuvre à l'été 14. On sait que les Bulgares commettront également des exactions. Donc vous avez des millions de civils qui ne veulent pas rester sous l'occupation ennemie et qui prennent la fuite. Par où fuir? Un seul chemin, c'est l'Albanie. C'est les montagnes d'Albanie. On est en plein hiver. On est en novembre, décembre 1915 jusqu'à janvier 1916. Et donc on a ces millions de personnes qui marchent. Alors évidemment, il n'y a pas de route, c'est des sentiers, des vallées très encaissées à traverser. On monte à des altitudes extrêmement élevées. On redescend dans des vallées extrêmement encaissées. Il faut traverser des ruisseaux, des rivières en crue. Bien sûr, il n'y a pas de pont, donc il faut les traverser à la nage. Donc il fait extrêmement froid. Donc la mortalité est extrêmement élevée. Le froid tue, le manque de nourriture tue. Des pillards, des clans albanais qui attaquent les fuyards pour les dépouiller. Et donc, c'est en effet une grande épopée à travers les montagnes d'Albanie, jusqu'au moment où eh bien, les débris du gouvernement, il y a le régent Alexandre, le roi Pierre.
Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. C'est en cela qu'on pense à une épopée, c'est qu'il y a toutes les couches de la population, toujours jusqu'au présente. Pouvoir lui-même, voilà. Qui est dans ce grand mouvement.
Exactement.
Et au fond, c'est ce qu'il sauvera. Puisque, en tous les cas, c'est ce qui sauvera la Serbie, puisque les autorités fuient le pays, mais elles sont bien là, ces autorités.
Voilà, puisque l'État est là où est le roi, dans une monarchie. Donc le roi part, l'État part avec lui. Donc l'État n'est pas pris. Et tous donc débarquent en Albanie, sur les ports albanais, où ils sont sauvés par l'armée française et italienne. Et les Italiens ont joué un rôle, parce que les Français ont un peu tendance à dire qu'il n'y a qu'eux qui ont agi. En majorité, c'est des navires français, hein, c'est tout à fait exact, mais les Italiens ont également agi dans des conditions dantesques. Il y a des bombardements par l'aviation croise, lâche des bombes sur les ports. La mer est absolument déchaînée. Ceux qui arrivent, ce sont ceux qui ont pu survivre, donc qui en majorité sont des hommes. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants n'ont pas survécu. Ouais. Voilà, sont morts en chemin. Et ça, c'est fondamental parce que, d'une part, la Serbie reste en guerre par le refus de la capitulation. Et donc, elle se retrouvera en position de vainqueur dans le camp des vainqueurs en 1918. Et surtout, comme il y a beaucoup de journalistes, les journalistes dont on parlait tout à l'heure, ils étaient là. Ils ont fait la traversée d'Albanie. Et après, ils ont écrit beaucoup de livres dans l'ambiance de propagande, c'est évident. Mais du coup, le public a connu cette épopée. Les journaux en ont parlé, par des photographies, par les récits. Et donc, ça a donné aux Serbes une image extrêmement positive. C'est le soldat qui ne cède pas. Il n'a pas cédé en 1914, comme le soldat français n'a pas cédé sur la Marne. Et là, il a connu ce que les Serbes appellent un Golgotha, mais un refus de capitulation, des souffrances absolument inouïes. Et il est resté dans la guerre.
Voilà, après le Golgotha, il y a la résurrection.
Exactement, exactement. C'est toute la thématique qui est utilisée à l'époque, notamment dans un texte du régent Alexandre. Ils ont monté le Golgotha, mais la Serbie n'est pas vraiment morte. Après, en effet, c'est la résurrection. Les débris de l'armée sont assemblés par les Français à Corfou, sur l'île de Corfou. Donc un territoire neutre grec, mais c'est pas grave, on s'installe quand même dessus. Les soldats se reposent, ils sont réentraînés et ils seront ensuite emmenés sur le front de Macédoine, où ils reprennent part à la guerre.
Je vais revenir à la politique. Les Austro-Hongrois dominent, les Bulgares ont gagné également, mais les Allemands ont leur mot à dire et on voit que les intérêts vraiment sont différents. Et donc, comme ils sont différents, il y a une mésentente. Et cette mésentente, elle existe autant du côté germanique que du côté de l'entente et des Occidentaux sur la politique à mener à l'égard de la Serbie. Vous le montrez d'ailleurs très bien, il faut tordre le cou à une idée. Le président Wilson, au début, les 14 points du président Wilson ne tiennent pas à détruire l'Autriche-Hongrie.
Alors en effet, cette étude m'a permis de revenir sur ce point, c'est-à-dire l'Autriche-Hongrie et la question de la survie d'Autriche-Hongrie. Alors il existe, c'est vrai, un courant historiographique qui prétend que la volonté de l'entente a été de détruire l'Autriche-Hongrie, et ce très rapidement. Alors ça c'est une thèse à laquelle je m'oppose, parce que j'ai l'occasion de ma thèse, j'ai trouvé aucun document qui pourrait laisser penser cela. Bon, je vais pas entrer dans le détail, mais à la limite peut-être Delcassé a pu à un moment y penser, Bon, mais en fait, l'idée dominante, c'est la survie d'Autriche-Hongrie. Alors, qu'il y ait eu, dans le monde intellectuel, des gens qui ont appelé à la disparition d'Autriche-Hongrie pendant la guerre. Ça, c'est une évidence absolue.
Donc, en faveur de la Serbie, bien évidemment.
En faveur de la Serbie, et puis très rapidement, de la Yougoslavie. Qu'il y ait eu, dans la franc-maçonnerie, une agitation contre l'Empire austro-hongrois, catholique, clérical, etc. C'est indéniable. Les dirigeants sont extrêmement prudents. Et jusque vraiment au printemps 18, l'idée, c'est de conserver l'Autriche-Hongrie comme point d'équilibre de l'Europe pour faire face à l'Allemagne. Il y a un texte de Maurice Paléologue, une dépêche de Maurice Paléologue qui est l'ambassadeur de France à Pétrograd jusqu'en 1917, un passage qui est très intéressant. Il dit « Tant qu'il existera une Italie et une Allemagne, il faudra une Autriche-Hongrie ». C'est vraiment le point d'équilibre. Donc, tant que les Alliés sont plus ou moins d'accord pour garder l'Autriche-Hongrie. Et en 1917, ils le sont, vu qu'ils discutent avec l'Autriche-Hongrie pour essayer de la faire sortir de la guerre. On conserve l'Autriche-Hongrie. Tant qu'ils conservent l'Empire dualiste, le programme des Serbes est limité. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas appliqué. C'est ce que j'ai appelé le programme minimum. C'est-à-dire qu'après la guerre, il y aura toujours l'Autriche-Hongrie et la Serbie pourra annexer la Bosnie, avoir la Croatie, avoir un accès à la mer. C'est des promesses qui ont été faites, notamment pendant la débâcle dont nous parlions. Parce que Briand avait extrêmement peur d'une paix séparée. Et donc, pour encourager les Serbes à rester dans la guerre, il a fait un certain nombre de promesses. Donc, il y aura un agrandissement. Mais cet agrandissement sera automatiquement limité par la survie de l'Autriche-Hongrie. Alors après, au printemps 18, là, les choses changent. Parce que c'est au moment de la polémique Tiernine-Clemenceau. Là, bon, c'est fini. L'entente comprend qu'on ne pourra pas sortir l'Autriche-Hongrie de l'alliance avec l'Allemagne. Alors là, d'accord. Là, la bride est lâchée. Et on apporte un soutien au mouvement des nationalités. Mouvement polonais. Mouvement tchèque. Là, les comités nationaux engrangent un certain nombre de promesses pour la réalisation d'un État tchécoslovaque et d'un État polonais. Mais pour les Yougoslaves, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. parce qu'il y a le fameux traité de Londres qui a promis à l'Italie des territoires slaves sur l'Adriatique. Et là, eh bien, il va falloir trouver un arrangement. Donc c'est vraiment extrêmement prudemment, lentement, que les alliés, notamment la France, s'engagent sur la voie de la réalisation du programme yougoslave. Et il ne faut pas oublier non plus, ça c'est peu connu hélas, mais à la toute fin de la guerre, fin octobre, début novembre 1918, il y a des discussions en Suisse qui sont menées par l'ambassadeur de France du TASTA, qui agit évidemment avec l'accord de Clémenceau, pour essayer, faire une ultime tentative pour essayer de sortir l'Autriche-Hongrie de la guerre avant qu'il ne soit trop tard et de la maintenir. La nature ayant horreur du vide, vide que créerait la disparition d'Autriche-Hongrie, quand même inquiétait.
Alors, il y aurait un vide qui pourrait être remplacé par une force slave. Et est-ce qu'on craint autant la force germanique que la force slave ?
Non. Du moment où l'Autriche-Hongrie eh bien, disparaît d'elle-même, quand même, il ne faut quand même pas l'oublier, parce que l'Autriche-Hongrie elle est quand même morte d'elle-même, de sa propre décomposition. Bon, ben là, il faut remplacer. Donc, en 1918, on envisage en effet de créer une Yougoslavie qui constituerait un barrage contre la descente des Allemands vers le sud. Mais attention, dans l'esprit des Français, c'est très net. Yougoslavie, d'accord, c'est-à-dire qu'ils rassemblent tous les Slaves, mais dirigés par les Serbes. Parce que les Serbes, ce sont nos alliés, on a parfaitement confiance en eux. Les Croates et les Slovènes, oulala, ils ont été sujets austro-hongrois, ils ont été fidèles à l'Empire. Donc, ce qu'on veut, c'est une Yougoslavie forte, contrôlée par les Serbes, et qui constitue donc un barrage contre l'éventuelle descente des Allemands. Alors, c'est renforcé, évidemment, par le retrait de la Russie, parce que pendant la guerre, les Yougoslaves et l'agrandissement de la Serbie pouvaient inquiéter parce que du coup, ça aurait profité à la Russie qui se serait retrouvée donc avec un allié, cœur des Balkans. Du côté de l'Angleterre, on s'en inquiète quand même, surtout que les Anglais sont plutôt bulgarophiles, donc on s'en inquiète. Alors avec la disparition de la Russie puis de l'Autriche-Hongrie, alors là, le programme yougoslave peut se réaliser.
Nous nous retrouvons dans un instant.
Le maestro Rostropovitch, violoncelliste et chef d'orchestre, membre associé étranger de l'Académie des Beaux-Arts, nous avait reçus au printemps 2006 dans ses appartements parisiens. Il nous a parlé de musique russe et de création contemporaine. Il raconte son amitié avec Shostakovitch, Prokofiev et Dutilleux. Il commente l'évolution de l'école russe de violoncelle et il explique sa façon de choisir ses instruments et de diriger un orchestre. Cet entretien exclusif est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la Serbie. Je reçois l'historien Frédéric Lemoal. Vous êtes l'auteur, Frédéric, de La Serbie, du martyr à la victoire, 1914-1918, un ouvrage paru chez 1418 Éditions. Je voudrais revenir quelques instants sur la notion d'identité yougoslave. Plusieurs fois au cours de cette émission, vous avez bien traduit l'idée que l'on pense à un corps yougoslave rassemblant à la fois les Serbes, les Croates et les Slovènes. Il y aura même l'utilisation de l'acronyme SHS, c'est bien cela. Or, est-ce que cela signifie qu'il doit y avoir une sorte de fédération, de petit empire dirigé par les Serbes, ou au contraire, au fond, un État unique, un État-nation unique dominé par la Serbie?
Alors, pendant la guerre, il y a en fait, pour faire simple, trois projets yougoslaves. Le projet yougoslave des Serbes, c'est-à-dire que les Serbes jouent le rôle des Piémontais dans l'unité italienne. Ils libèrent leurs frères slaves et ils verrouillent l'État à leur profit. Yougoslavie qui serait une grande Serbie dans laquelle il y aurait tous les autres Slaves. C'est le projet serbe. Ensuite, on avait le projet d'autres, de certains Croates ou de certains Dalmates qui créent en 1915 un comité yougoslave qui a son siège à Londres, qui défend l'idée d'une Yougoslavie dans laquelle tous les peuples seraient à égalité, donc une fédération qui serait dirigée par la dynastie serbe des Karađorđević. Donc dans leur esprit et dans l'esprit de son président qui est Trumbić, il y a une collaboration avec les Serbes. Et il n'a jamais voulu rompre, malgré les pressions, rompre avec les Serbes. Dans l'idée, en effet, d'un État unitaire où tout serait égalité. Et le troisième, c'est celui qui est défendu par des Slaves du Sud de la monarchie, des Habsbourg. Pendant la guerre, le trialisme. Et lorsque l'Autriche-Hongrie s'écroule en 1918, un projet de fédération yougoslave à l'exclusion des Serbes, qui sont considérés comme des arriérés, des sauvages, et qu'on n'intégrerait pas dans la fédération yougoslave. Donc voilà les trois grands projets. Celui qui est réalisé à la fin de la guerre, c'est le projet serbe. Pourquoi ? D'abord parce que Pašić était un homme extrêmement habile, qui était prêt à signer tout ce qu'on voulait et qui après reniait sa signature parce qu'il avait qu'un seul objectif, c'est celui dont j'ai parlé. Ce qui a beaucoup joué, c'est deux choses. En 18, l'avancée de l'armée serbe, eh bien, qui avance jusqu'en Croatie, donc elle est en position de force évidemment dans ces territoires, et parallèlement l'avancée des Italiens qui rentrent en Dalmatie en se disant ben, « nous venons prendre ce qu'on nous a promis en 1915 ». Et cette avancée des Italiens a épouvanté les Croates. Et ils ont dû chercher des protecteurs, et ce protecteur, c'était les Serbes. Donc, le comité yougoslave, eh bien, voilà, manque de prise. Il n'est pas reconnu par les alliés, il n'y a pas de légitimité, véritablement, il n'a pas d'armée. Il aurait bien voulu créer une légion yougoslave, mais les alliés n'ont jamais voulu. Donc, il est en position de faiblesse face aux Serbes et à Pašić. Alors, du coup, ce qui se réalise en 1918, c'est le projet serbe. Le problème, c'est que les Serbes commettent une erreur fondamentale. C'est qu'ils établissent, en effet, un État yougoslave avec une certaine brutalité.
Ce que vous appelez le péché originel de la Yougoslavie.
Voilà, c'est le péché originel de la Yougoslavie. C'est la façon dont la Yougoslavie s'est formée au bénéfice des Serbes, qui en ont exclu les Croates. Et les Croates, eh bien, se sentant exclus, eh bien, n'ont jamais, on finit par se considérer comme conquis. Et n'ont jamais pu trouver leur place dans le système yougoslave de l'entre-deux-guerres.
C'est pour ça qu'un péché originel, on ne s'en sort jamais, hein, parce qu'il est toujours inscrit dans l'humanité. C'est pour cette raison, au fond, que les années 90 constituent la conséquence directe de cette époque.
Oui, il y a un lien, ça c'est incontestable. C'est la façon dont l'État a été créé. Alors, la comparaison que j'aime faire, c'est avec celle d'un pays que je connais bien aussi, c'est l'Italie. L'Italie aussi s'est unie tardivement. L'Italie aussi a rassemblé des peuples très divers, entre un piémontais et un sicilien au XIXe siècle, on voit la différence. Hein. Et pourtant, certes, il y a eu des forces contre l'unité en Italie. L'Italie a traversé des drames épouvantables dans son histoire, les deux guerres mondiales, les années de plomb, le fascisme, mais n'a jamais éclaté. Alors que la Yougoslavie, elle a éclaté deux fois. Alors évidemment, il faut s'interroger, qu'est-ce qui a pu unir les Italiens, pourtant différents, et qui n'a pas uni les Yougoslaves? Bon, en Italie, il y a une culture commune, quand même, la romanité, une histoire commune, malgré les divisions entre États au Moyen-Âge, il y a quand même une histoire commune. Et puis il y a la religion, qui est un facteur identitaire très fort en Italie, le catholicisme. Or, dans l'espace yougoslave, qu'est-ce qu'on avait? On avait des orthodoxes et des catholiques, des peuples qui ont gravité dans le monde germanique, les Croates. D'autres qui ont gravité dans le monde de l'Orient, les Serbes sous domination des Ottomans. Donc il y avait des différences identitaires qui étaient extrêmement fortes et qui eh bien, ne se sont jamais véritablement effacées, jusqu'au dernier éclatement de 1990-91.
Eh bien, c'est sur cette idée d'unité et de force centrifuge et centripète que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup, Frédéric Lemoyle, d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle les références de votre ouvrage « La Serbie, du martyr à la victoire, 1914-1918 », un ouvrage indispensable donc, pour comprendre les ressorts de cette grande guerre et des origines de la grande guerre chez 1418 édition. Je cite également l'autre ouvrage qui a été préfacé par Georges-Henri Soutou, « La France et l'Italie dans les Balkans, 1914-1919, le contentieux adriatique », un ouvrage paru en 2006 chez L'Harmattan. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.